Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Allô tout le monde, bienvenue dans les Influenceuses du lundi 27 mars. J'espère que vous allez bien maintenant que le printemps est parmi nous depuis maintenant une semaine. Woo! Il est 19h33 et nous sommes avec vous jusqu'à 8h. Je suis avec Marjolaine Pion, votre vice-présidente aux affaires internes de la Feuze. Pour ma part, je suis Laurent Despatie, votre VP activité sociale de la Feuze et je suis tellement content d'être avec vous ce soir et malgré qu'on pourrait vous jaser pendant une heure complète des péripéties du 5 à 8 de la Saint-Valentin de Marjolaine, ou encore, ou encore de mon obsession sur Pierre Bruno qui dit « on peut de rigueur », eh bien, je vous annonce que ce n'est pas le plan de ce soir. Pour le troisième épisode des Influenceuses, on reçoit Viviane Ouellette, responsable aux communications de l'AGES, qui est en fait l'Association générale étudiante de sciences. On reçoit également Alexandre Bélanger du Club de jeux de rôle et Société de Sherbrooke, le CJRSS.
Tout un programme ce soir, Laurent. Comment ça va?
Super bien. En plus, Marjolaine, aujourd'hui, on me dit que j'avais une belle énergie. Puis ça, je trouve pas ça trop. Fait que ça fait qu'on va vraiment mettre ça de l'avant. Marjo, on démarre-tu ce show-là?
On va le démarrer, ce show-là. Et ça commence là, très chargé. Donc, soyez prêts, ça part.
Jingle! Les Influenceuses. Avec Laurent et Marjolaine.
Alors, Laurent, on commence en force. La semaine passée, pendant le segment des éphémérides, je t'ai demandé si le 13 mars, ce n'était pas la date de création de la feutrine. Et j'ai mentionné que je croyais que c'était fait à partir de laine de mouton tressée. Tu m'as dit que tu croyais pas, tu connaissais pas l'information, mais curieux comme t'es, t'allais faire des recherches sur le sujet. Est-ce que tu peux maintenant me répondre d'où est-ce que ça vient, la feutrine?
En effet, je les ai faites, les recherches. Et Marjo, la semaine passée, tu l'as dit, on a eu une petite chire quand même sur la feutrine en ondes. Et donc, cher Radio spectateurs, radio-spectatrices, vous saurez que deux TD ensemble, ça finit toujours par déraper. L'exemple, la feutrine, est particulièrement très bon. Bref, je vous l'explique. Tel José Lito Michaud dans le train du Orford Express en 2008, je vous raconterai de manière human l'histoire du parcours de la feutrine. Tchou-tchou! Bien que tout le monde se trompe entre le feutre et la feutrine, parce que oui, c'est tout à fait nous, on se trompe tout le temps, eh bien, ce n'est pas du tout la même chose. Le feutre est utilisé depuis fort longtemps. Là, en ce moment, là, je ressors chez vous vos notions de la Nouvelle-France et de la traite des fourrures. Tu te souviens, Marjolaine, des chapeaux faits à partir de castor?
Oui.
Ben, c'est justement la transformation de leur fourrure qui fait le feutre, en fait. Par contre, pour ce qui est de la feutrine, ça a été créé et là, autour du 20e siècle, c'est quand même très, très récent,
oui,
tout récent,
oui.
En fait. Ça a été créé par une société italienne de fabrication de poupées. En fait, on prenait la feutrine pour remplacer la paille dans le rembourrage des poupées de tissu. Je pourrais m'en dire que les petits Italiens des années 1900 étaient finalement tannés de se gratter en câlinant Grisou, leur poupée de bout de chou. Bref, la réelle différence se trouve dans le matériau d'origine. La feutrine est faite à partir de fibres textiles synthétiques, alors que le feutre, lui, provient finalement de poils d'origine naturelle. Donc, je ne suis pas en mesure de te dire la date exacte de sa création, mais voilà pour l'histoire de la feutrine. José Lito, drop the mic.
C'était assurément différent de ce qu'on avait annoncé la semaine dernière. Merci vraiment beaucoup pour le récap. Honnêtement, j'espère que ça l'a plu à nos auditeurs.
J'ai adoré faire ces recherches-là. C'est vraiment anodin dans mon historique, là, la feutrine. Mais mon Dieu, c'est une chire que j'adore.
Ben oui, puis là, ben, tout le monde va se coucher un peu moins niaiseux ce soir. C'est un fun fact que les gens vont pas ramener, je sais pas moi, dans une soirée pop quiz.
Effectivement, j'espère,
donc,
en tout cas.
On passe maintenant à la présentation des postes de la Feuze. Donc, pour faire suite à notre lancée depuis la première émission.
Oui, en effet, on poursuit en fait là à l'épisode 3. Donc, Marjo, la dernière fois, en fait, on avait mentionné lors de la première émission qu'on allait présenter à chaque semaine les différents postes du conseil exécutif de la Feuze. Donc, on continue vraiment dans cette lancée.
Oui, donc en fait, tu vois, Laurent, dans ma tête, on pouvait vraiment en faire juste deux ou trois à chaque émission avant de se rendre à la semaine du conseil des membres annuels. Mais mes calculs n'étaient vraiment pas les meilleurs et on se ramasse aujourd'hui à vous en présenter cinq.
Cinq. Bon, on commence en force avec la coordination à la condition étudiante. Cette personne est responsable des dossiers relatifs aux affaires éthiques, aux droits fondamentaux des personnes étudiantes et à leur qualité de vie. La personne offre aussi de l'assistance aux personnes cotisantes dans leurs dossiers pédagogiques et disciplinaires, en collaboration finalement avec la coordination aux affaires universitaires et à la recherche.
Donc, en parlant de la coordination aux affaires universitaires et à la recherche, elle est responsable des dossiers relatifs à la qualité de l'enseignement et de la formation. Elle va également assurer les relations avec les syndicats du personnel de l'Université de Sherbrooke. Et finalement, elle va s'occuper de promouvoir et de publiciser les droits des personnes étudiantes.
Donc, on s'entend pour dire que la condition étudiante et affaires universitaires à la recherche travaillent beaucoup ensemble, finalement.
Absolument.
Là, on va passer maintenant à la coordination en l'engagement étudiant. Mon Dieu, c'était vrai, capable de dire les mots. Je recommence, j'ai bugué. On passe maintenant à la coordination à l'engagement étudiant.
C'est comme un tongue twister.
Ben voilà. Donc, ben voilà, je l'ai pas. On continue. Cette personne est responsable des dossiers relatifs à l'implication étudiante et au respect des principes d'équité, de diversité et d'inclusion dans le milieu de l'implication. C'est également elle qui assure les relations entre la FEUS, le collectif et ses facs. C'est d'ailleurs la coordination à l'engagement étudiant qui s'occupe d'organiser la soirée d'implication à la fin de chaque session.
On continue maintenant avec la coordination aux affaires externes qui, elle, est responsable des dossiers touchant tout ce qui est gouvernemental, donc tant au municipal qu'au provincial et au fédéral. En collaboration avec nos personnes employées, elle va élaborer les discours politiques de la FEUS. Son rôle est également d'être le porte-parole de la FEUS pour les dossiers externes de l'université, donc entre autres dans les médias.
Et finalement, on va terminer avec la coordination aux affaires locales et environnementales. La personne, en fait, elle va s'occuper d'entretenir les relations avec les organismes communautaires partageant des enjeux communs avec la FEUS. La personne coordonne aussi les activités environnementales qui impliquent la FEUS. Elle assure aussi des relations avec les groupes étudiants internes et externes de notre chère université.
Ça fait le tour?
Ben, je pense que oui.
Donc, vous avez maintenant une meilleure idée des postes du conseil exécutif de votre FEUS. Si jamais vous avez plus de questions, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Et on va en parler plus tard, là, mais je le mentionne, tous ces beaux postes-là, incluant ceux qu'on a présentés la semaine passée et l'autre d'avant, tombent en élection cette semaine.
Donc là, on serait rendu dans le fond au topo de la semaine.
On peut bien passer au topo de la semaine.
Jingle!
Donc, Laurent, la semaine passée, il y a eu la semaine de prévention des vax. Vous avez jusqu'à minuit ce soir, d'ailleurs, pour écouter en rediffusion sur la page Facebook de la FEUS le spectacle du cabaret humoristique « Fuck la culture du viol ». Ça a eu lieu la semaine passée, là, pendant notre émission. Il y a eu 4 invités. Les gens ont pu, à chacun leur tour, faire quelques petits sketchs sur...
Très le fun comme événement,
ouais,
ce qu'on a entendu.
Exactement. Je suis désolée, j'avais d'autres idées en tête, mais je me suis complètement perdue. Sinon, là, pour continuer avec ce qui s'est passé, ce qui s'en vient, ce matin, je suis allée faire la tournée mensuelle des associations facultaires. Donc, oui, à chaque mois, la personne à la coordination aux affaires internes a le devoir d'aller visiter les assos dans leur local. C'est un moment où j'en profite pour prendre leurs nouvelles de manière un peu plus intime et durant lequel on va discuter de certaines de leurs préoccupations. Mais là, je rassure tout le monde, ça va bien partout. Donc, victoire.
Puis sinon, cette semaine, est-ce qu'il y a des choses à venir? C'est quand même chargé, je pense, là.
Chargé, tu dis? Pour vrai, Laurent, je crois que cette semaine, c'est la semaine la plus importante pour la FEUS.
Demain soir, dès 18h, rendez-vous au A8352 pour la tenue des séances de comité d'études. Les personnes exécutantes actuellement en poste vont présenter leur cahier de mandat. Mais attention, il vous sera présenté en primeur demain. Des cahiers de mandat mis au goût du jour selon les nouveaux règlements généraux.
Yes, et ensuite, mercredi soir à 17h, au bureau de la FEUS, je rencontre pour une deuxième fois cette semaine toutes les assos facultaires, mais cette fois-ci dans le cadre de la table interfacultaire, tu comprends le principe?
Oui, voilà.
Selon toi, ça veut dire quoi?
Ben vraiment, là, l'ensemble des facultés ensemble réunies à une table.
Très fort, 12
sur 10.
Merci. Donc, on va jaser de ce qui s'est passé lors des comités d'études de demain. On va passer l'ordre du jour du CAM, donc le Conseil annuel des membres. Et on va aussi discuter des points que les assos vont vouloir apporter en instance.
Et là, tu l'as dit, là, le CAM, c'est dimanche prochain, le 2 avril. C'est le Conseil annuel des membres, ou encore le CM, comme on a dit. C'est l'instance durant laquelle tous les postes tombent en élection. Donc, c'est vraiment une fois par année. Bon, il est très long, mais bon, c'est pas grave. Les personnes élues vont être en poste du 1er mai 2023 jusqu'au 30 avril 2024.
Exactement, rien de moins. Donc, c'est vraiment pour ça que je tenais à compléter les présentations aujourd'hui, parce que si on avait continué lundi prochain, il aurait été un petit peu trop tard. Donc, durant le CAM, on va avoir notamment des nouvelles des partenaires de la FEUS, des personnes représentantes de la FEUS sur différents comités de l'université, et évidemment des nouvelles de nos personnes exécutantes.
Et ce dimanche, le calendrier des instances 2023-2024 va être voté, incluant les dates des événements. Et j'ai tellement hâte de vous les présenter.
Oui, donc c'est à ne pas manquer. Je rappelle que ça commence à 9h dimanche matin.
Est-ce qu'on a accès au déjeuner, comme d'habitude?
Ben oui, absolument. Donc, dans le fond, toutes les délégations sont invitées à venir déjeuner avec nous dimanche matin dès 7h. Et le restaurant reste à confirmer parce que je dois appeler pour réserver. Je ne veux pas vous vendre le punch si je dois changer de restaurant.
Bon, en tout cas, c'est des patates, moi je suis là.
je pense que peu importe celui qui va être choisi au final, je te garantis qu'il va avoir les patates.
Non, mais ça, je vais pas partir sur notre chère Marjolaine, mais des fois, les patates des restaurants, c'est vulgaire. Je vais pas nommer, mais j'ai déjà vu un restaurant où les patates étaient râpées. Moi, pour moi, ça, là, ça, c'est un appel à la violence. Moi, des patates déjeuner doivent être des cubes salés, bon, délicieux, bon, je dirais même, mais des patates râpées, non, vraiment, ça a été la quintessence pour moi d'un manque de respect.
Mais là, si, admettons, ton restaurant, il vend des patates, ben, il sert des patates râpées, mais que, genre, pour compenser, ils peuvent aussi t'offrir un smoothie.
Ah ben là, si j'ai un smoothie, ah ben là, ça se négocie quand même. Je suis pas un monstre quand même, mais okay. Bon. Je vais pas laisser 4 sur 5 sur Yelp. Mais bon.
Tu vas laisser 4 sur 5 à cause que le smoothie peut permettre de compenser pour les patates ou parce que les patates sont râpées?
Tant que c'est alimentaire, Marjolaine, je vais être présent de toute façon. Bon,
bon okay. Sur ce délire, Laurent, est-ce que ça serait le temps de passer à la capsule éphémérée de la semaine?
Oui, est-ce qu'on a un jingle pour ça?
Oui, on a un jingle.
Laisse-moi le dire. Jingle!
Alors, Laurent, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité le 27 mars?
J'aime tellement ce segment. Et Marjolaine, on va commencer les capsules éphémérides de la journée sous le signe du bélier cette semaine, parce qu'on change dans l'astrologie. On débute avec une petite mention spéciale d'anniversaire. Aujourd'hui, le 27 mars 1963, Quentin Tarantino est né. Je sais pas si je l'ai dit comme faux, mais bon, il pense pas qu'il faire des plaintes au CRST.
On lui souhaite une belle journée et une bonne fête.
Bonne fête à lui. En fait, là, parmi ses œuvres notables, on reconnaîtra évidemment Pulp Fiction et Kill Bill. Mais bon, Quentin Tarantino prend le bord, c'est pas ça ma capsule. Capsule antique cette semaine. En fait, Marjolaine, au lendemain de la révolte d'Alexandrie du 26 mars, moins 47 avant Jésus-Christ, Jules César fait de Cléopâtre l'unique souveraine d'Égypte, bien qu'elle fût reine là, de moins 51 à moins 30, parce qu'elle devait partager le trône avec son frère plus jeune, Ptolémée XIII, sauf que celui-ci avait 10 ans et elle 18 ans. Ils étaient des époux, Marjolaine. Bon, je te laisse là avoir la face.
Attends,
de...
Attends, quoi?
Oui, à l'époque,
Cléopâtre
c'était...
Cléopâtre et son frère étaient mari et femme.
Oui, la dynastie Lagide, c'était pas rare qu'on voyait des frères et sœurs se marier entre eux, mais c'est vraiment plus l'âge 10 ans et 18 ans. Donc vraiment, là, le 27 mars, c'est la seule souveraine de l'Égypte. Donc voilà. Mais malgré cet éphéméride, c'est davantage un prétexte, je pense, pour en apprendre plus sur Cléopâtre. J'ai 3 fun facts à vous dire. Premièrement, Marjolaine, je pose la question, que signifie selon toi le mot Cléopâtre? Que signifie son nom? Est-ce qu'il y a une signification cachée?
Tu m'en poses une bonne. Je ne croyais pas que ça voulait signifier quelque chose en particulier.
Mm-hmm. En fait, son nom signifie la gloire de mon père. C'est ça que ça veut dire Cléopâtre. Oh. Et son vrai titre, c'est Cléopâtre 7, car il y a déjà eu 6 personnes de nommer Cléopâtre avant elle. Donc voilà. Donc c'est vraiment Cléopâtre 7, mais elle est tellement rendue populaire dans l'Antiquité que finalement, on
les
fait juste des Cléopâtre.
Les autres, on les connaît pas.
Non,
ils ont disparu dans les brumes.
Ben voilà, on parle plus de Cléopâtre 7.
Quelque part caché dans une pyramide.
Deuxième question. Et là, je vais avoir un backstory historique. Cléopâtre était-elle égyptienne, Marjolaine?
J'aurais tendance à dire oui.
La vraie réponse, c'est non. Et là, je m'en vais faire un petit retour historique. Keep up with me, radio spectateurs, radio spectatrices, ça va bien aller. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Cléopâtre provient de la dynastie Lagide. On peut aussi dire ptolémaïque. Ça, son règne, c'est moins 305 à moins 30. En fait, l'histoire est assez intéressante. Je vous ramène encore plus loin. On se souviendra des conquêtes d'Alexandre le Grand. En 10 ans, et à cheval, je le rappelle, il conquiert sensiblement tout le monde occidental qu'on connaissait. Il va même proche de la vallée de l'Indus en Inde. C'est pour vous dire le vaste empire qu'il se fait. Par contre, à sa mort, il ne lègue pas de testament. Il n'a pas le temps d'en faire, en fait. Donc, c'est ses généraux qui vont se répartir le territoire. Et en Égypte, ce sera quelqu'un de nommé Ptolémée qui va prendre cette satrapie. Et donc là, on fait des références avec la dynastie, en fait, ptolémaïque. Donc, Cléopâtre, qui provient de cette dynastie-là, c'est finalement c'est gréco-macédonienne qu'elle est. Mais par contre, c'est la première reine à prendre l'égyptien. Et quand même, là, ça dure longtemps, cette dynastie-là, et c'est la première qui apprend l'égyptien. Donc vraiment, Cléopâtre n'était pas égyptienne. Autre, troisième fun fact et dernier, est-ce que tu penses que Cléopâtre 7 est plus proche dans le temps des pyramides, en fait, de la construction des grandes pyramides, ou de la sortie du iPhone 13?
Ben encore une fois, je te dirais que je crois qu'elle est plus proche des pyramides.
En effet, non, ce n'est pas les pyramides, c'est le iPhone 13. En fait, je vais faire un petit calcul pour vous. Les pyramides ont été construites à peu près il y a 4500 ans et l'iPhone 13 est sorti en 2022. Donc, si on compare, il y a environ 4449 ans qui séparent de la construction des pyramides et le début de son règne, comparé à seulement 2074 années entre le iPhone 13 et le début de son règne.
C'est fou!
Et ça vient jouer avec notre... conception du temps de manière assez...
Ben oui, c'est ça, je m'en dis. Merci, Laurent, d'avoir brisé toutes nos connaissances de société qu'on croyait avoir, mais que, dans le fond, elles étaient complètement erronées.
Ça me fait plaisir et je suis là pour ça. Et là, je finis mes éphémérides parce que tu connais mon grand amour pour la belle selle. Je parle de Céline, là, pas...
OK, je me demandais vraiment... Là, Laurent, il a vu dans mon visage face d'interrogation.
J'ai été mais belle celle. En effet. Non, je parle de la belle Céline Dion, oui. Mon idole, ma muse.
Oui, absolument. Ça, oui.
J'ai fait un extrait au premier épisode. Oui. Mais là, c'est intéressant ce qu'on parlait. Parce que je sais que c'est pas aujourd'hui, mais demain, le 28 mars 1995, ma belle Céline sort son album 2, écrit par Jean-Jacques Goldman. Et encore aujourd'hui, Marjolaine, il s'agit de l'album francophone le plus vendu dans l'histoire de la musique. On peut voir les succès suivants. Pour que tu m'aimes encore, que j'ai chanté premièrement, comme je disais, oui. Le premier épisode d'ailleurs. Il y a aussi Destin, J'irai où tu iras, Prière païenne, et les derniers seront les premiers. Donc voilà, la belle Céline, depuis 1995, dans mon cœur et dans le cœur de tous les francophones que je connaisse. Bref, c'était les éphémérides de la semaine, Marjolaine.
Merci beaucoup, Laurent. Donc, c'est ce qui conclut le premier segment. Merci tout le monde d'être là. Préparez-vous parce qu'on s'en va en pub. Et ensuite, musique avec Fille à portée de l'extraordinaire Ariane Roy. Tout de suite après la pause, on va recevoir Viviane Ouellette, responsable aux communications de la GES, et Alexandre Bélanger du Club de rôle et de société de Sherbrooke. Donc, restez à l'affût, vous êtes aux Influencers sur CFAQ 88.3.
On est de retour aux Influenceuses, il est présentement 19h21 et je suis avec mon amie Marjolaine et on vient de recevoir en studio nos deux invités, Viviane Ouellette et Alexandre Bélanger. Bonjour à vous deux, vous allez bien?
Bonjour,
ça va bien?
Oui, très bien. Marjolaine, ça va bien?
Ben, ça va toujours bien, toi, ben, Laurent?
Ça va encore très bien.
Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation ce soir pour venir aux Influenceuses. Viviane, on va commencer avec toi. Parle-nous un peu de toi, qui tu es, d'où tu viens, t'étudies en quoi?
Donc, moi, j'étudiais en biologie, donc je suis une fille de sciences, mais j'ai fait des communications avant à l'UQAM, mais on le dit pas trop fort. maintenant, on est sur le bon chemin. Donc, je suis une fille, c'est sûr, biologie, j'aime ça jouer dehors, puis je m'implique là, depuis pas très longtemps à l'université, mais c'est ça, le petit topo rapide.
Excellent. Qu'est-ce qui t'a forcé, ben pas forcé, mon Dieu, mais poussé à faire un changement là, des coms vers la biologie?
En fait, moi, j'ai toujours été en sciences, puis j'ai été vers les coms plus pour faire un changement, pour voir si ça m'intéressait, là, le côté plus sciences sociales. Puis finalement, j'ai vu que je retournais toujours vers les sciences. Je me disais, ah, je vais faire de la communication en sciences. Fait que finalement, je fais, ben, je vais aller faire des sciences pour faire de la com à propos des sciences.
Ah, mais c'était un bon, bon mélange des deux. Puis finalement, retour aux sources, puis après ça, intégrer ça dans une passion, disons ça comme ça.
Exactement, on peut dire ça comme ça.
C'est intéressant ton corpus de communication parce que finalement, ton poste en ce moment que tu as à la GES, c'est communication. Donc,
c'est drôle, ça.
En quoi consiste ton poste finalement et ses fonctions?
Mon poste, c'est probablement faire des mimes. C'est la tâche la plus importante. Là. Je crois que c'est ça qui est important pour les étudiants.
Avez-vous participé au carnaval, faire les mimes? C'était-tu toi, ça, la personne qui faisait...
Non, je relayais les messages.
Ah, génial, parfait.
Je comptais sur les étudiants. En fait, c'est ça, mon poste, c'est essentiellement là, de faire la communication entre les étudiants, les membres de la GES, puis nous, le conseil exécutif ou le conseil administratif. Donc, on fait beaucoup de... Je fais beaucoup de l'infolettre, puis des posts là, ici et là, là pour les différents événements, puis qu'est-ce qu'on a à advertise.
La fameuse infolettre qui, je rappelle, s'appelle les messagesses. C'est un beau mix entre messages.
Oh wow, première fois que je l'entends, et mon Dieu, des frissons. Le jeu de mots, moi,
jeu de
j'adore
mots
ça.
Recherché, là. Mais oui, on y a pensé.
Tu n'avais jamais vu ça?
Ben, moi, je ne suis pas en agesse, vraiment. Là. Moi, je suis à l'âge et flèche.
Non, moi, en agesse, c'est ça.
Nous, nos messages ont plein de couleurs. J'adore.
Ah. Ben, nous, il y a des mimes, puis ça s'appelle les messagesses. Nous. Oh!
Nous.
Est-ce que c'est est-ce qu'il est trop tard?
Non, attendez, j'ai tellement fait une erreur. Anciennement, moi, encore toi.
Tu étais trésorière, tu n'étais pas communication, voilà.
Non, c'est ça, mais comme je disais, nous, en tant que personne venant de la communauté de la faculté des sciences.
Mais t'es avec moi maintenant. T'es à l'âge flèche pour en politique.
Mais si tu le lis encore, on apprécie.
Oui, oui, oui. Non, ben, je ne les reçois plus, mais sinon, oui, je les lirai encore, là, on s'entend.
Donc, c'est une information précieuse.
Oui, vraiment. Puis surtout, les mimes, ça apporte une belle, un beau plus là, à cette infolette parce que on va pas se mentir, des fois, c'est long. donc, moi, maintenant, j'aimerais ça savoir, c'est quoi les services qui sont offerts à la GES puis comment est-ce qu'ils sont accessibles pour les membres?
Bien, c'est sûr qu'on est très connus pour notre café gratuit quand tu es étudiant puis qu'il y a quelque chose de gratuit puis c'est du café en plus. C'est pas mal winner.
Un gros winner.
Mais on fait, entre autres, là, différentes choses. On offre des subventions pour différents projets à chaque session. Donc, les étudiants peuvent venir nous voir là, avec différents projets puis on passe en conseil d'administration puis on offre un certain montant. Ensuite, on a des bourses qui sont décernées là, pour l'implication. Puis sinon, on fait différents événements, là, les 5 à 8. Puis on a différents aussi avec la faculté puis les différentes cohortes, les programmes. Conjointement, là, on fait différentes petites affaires là, pour pimenter un peu la vie.
Très cool. Oui. Et en fait, la GES est aussi reconnue pour l'organisation de ses semaines à la joie à l'approche des semaines d'examen intra et finaux. Est-ce que tu seras en mesure de nous expliquer d'où vient l'idée de la semaine de la joie et pourquoi elle revient session après session?
La semaine de la joie, c'est une semaine où est-ce qu'on organise justement des petites activités qui ne requièrent pas nécessairement beaucoup de participation de la part des étudiants parce que, comme vous l'avez dit, là, c'est la semaine avant les examens. Fait que tout le monde est stressé, tout le monde est sénère, on n'a pas le temps d'aller à l'épicerie, on est tous un peu comme des petits gobelins là, dans nos études. Fait que la semaine de la joie, c'est différentes activités. Là. Par exemple, on offre du pain gratuitement avec des fruits aussi, il faut un petit peu de vitamine. Là. Sinon, on a des activités de méditation, de zoothérapie, tout ça pour aider les étudiants à relaxer un peu puis faire en sorte que les examens, ça se passe un peu mieux.
Puis comment est-ce que les personnes étudiantes reçoivent ça la semaine de la joie? C'est apprécié?
Oui, vraiment. On a toujours des bons commentaires, en fait. Puis comme vous l'avez dit, là, ça revient depuis un petit bout quand même. Là. Donc, c'est assez apprécié. Puis justement, ça fait un petit moment, comme un petit break là, pendant ta session d'études. Là. Tu vas flatter des petits poneys, là, puis tu te sens bien après. Là.
Pascal! Wow!
Et en fait, là, tantôt, on fait la capsule d'histoire. Là. Donc là, je pose la question d'histoire. Depuis quand, en fait, ces semaines-là existent?
Donc, ça s'est un peu perdu avec la mémoire institutionnelle. On a fait de notre mieux pour faire... On a cherché dans les archives de la GES. On a vu que ça existe depuis... Ça a été adopté avant la pandémie. Okay. La date originelle, là, je peux pas vraiment vous le dire. Là. On sait qu'en 2019, ça existait. Puis c'est sûr que ça va continuer là, pour un bon bout de temps encore. Là, on a des partenariats qu'on est en train de solidifier. Puis les étudiants, ils reviennent là, session après session pour nous dire que c'est intéressant. Donc, on essaye là, d'adapter aussi les différentes activités. Là, on a des nouveautés qui s'en viennent...
Puis avec la pandémie qui a sévi, est-ce que tu as vu une différence dans les activités que vous offriez avant la pandémie puis maintenant, suite finalement à la pandémie?
Je pourrais pas te dire. Dans le fond, c'est ma collègue ACL là, qui s'occupe vraiment de ça. Mais comme je sais ça, je dis, on a des différentes activités qui s'en viennent. Puis je pense que c'est chaque personne qui l'organise qui apporte un peu sa couleur puis qui s'occupe là, de le personnaliser puis de le mettre... On essaie de vraiment de faire ça pas tant participatif dans le sens que ça requiert pas de temps de la part des étudiants, mais que c'est plus là comme un support puis okay. Une aide. Là. Fait qu'on adapte ça là, avec le temps.
Par contre, moi, ce que je peux dire, c'est vraiment que la zoothérapie revient semaine après semaine de la joie parce que ça fait des lustres. Ben peut-être pas tant que ça, là, mais je veux dire, ça fait très longtemps que c'est là. Puis à moins que je me trompe, je pense que ça doit être une des activités préférées de la communauté étudiante en sciences. Là.
C'est sûr.
Aller au local du Comato, flatter une petite poule, un lapin, un cheval, genre, c'est pas des choses que tu fais tous les jours. Puis quand t'as tous ces beaux animaux-là en même temps, là, c'est...
C'est quoi les animaux? On a parlé de poney tantôt, poule.
Ouais, il y a chat, chien, il y a des petits rongeurs aussi.
Ouais, il y a des rats, il y a des oiseaux, des cochons d'Inde pas de poils. Il y a vraiment de tout, là. C'est vraiment le fun.
Oh mon Dieu, la zoothérapie. Oui. Très cool.
Fait que Laurent, la prochaine fois, là, on demandera à Viviane de nous dire c'est quand, puis on ira. J'irai te montrer.
Je suis en science. Je suis stagiaire en science, puis je vais aller flatter là, des petits lapins. Okay. Là.
C'est bon, on accepte. Merci.
Fun fact, avant de passer au prochain point. Moi, Pascal, il m'a déjà mordu le pied, mais solide. Moi, j'essaie de faire une vidéo, lui dire « Allô, toute mignon », puis il s'est juste pensé, il m'a bêté le pied.
Ça, c'est ringard quand ça arrive, c'est moche. Ouais. Puis Pascal, déjà, c'est quel animal?
C'est un poney.
Un poney. Ouais. Oh mon Dieu, OK, gros poney, là, ça ne fit pas tout dans un local, tous les animaux, là.
Ouais.
Tu me permets? Ah oui?
Ça fit. Il y a l'odeur qui reste une semaine après, On a les beaux souvenirs aussi qui viennent avec.
Ouais, c'est ça. Puis Pascal, il est quand même populaire parce que dans le temps que le banquier existait, il est déjà allé. Au banquier.
C'est une vedette, là.
Oui, oui.
Pascal a rencontré Julie Snyder.
Je te dis.
Oh, yes.
Mon Dieu, wow.
C'est comme si on était amis avec elle, là.
Est-ce qu'il a ouvert une valise ou vraiment c'était pas ça son rôle?
Hein? Je sais pas, c'était genre sur une thématique, justement, ça devait être de la ferme, puis le poney y est allé.
Mais pour que Pascal aille, est-ce que c'est votre poney à vous ou ça fait partie d'une compagnie?
Non, c'est à Toutou Poilu.
Ah, Toutou Poilu, très cool.
C'est un organisme de l'Est. Je m'avance-tu en disant de l'Estrie? Je sais pas. Mais en tout cas, quand même, tu sais,
ça devient du
coup. Oui, c'est ça, c'est local. Puis ça fait vraiment longtemps que la GES collabore avec eux autres pour justement la semaine de la joie. Là, fait que c'est vraiment le fun.
Très cool. Ouais. Tout poilu. Noter les autres facultés.
À quoi?
À noter les autres facultés, j'imagine.
Définitivement.
Ça serait vraiment intéressant qu'on ait les autres facultés.
Juste pas en même temps que nous.
Non, évidemment. Nous, ça serait peut-être là, dans le plein milieu où il n'y a pas d'examen. Ça, c'est le fun. Comme ça, on aurait le temps d'aller les voir. Pascal.
Mais je te dis, genre, même si tu n'as pas le temps, tu prends le temps.
Oh mon Dieu, j'aime ça, Marjolaine. Si on n'a pas le temps, on prend le temps.
C'est Pascal.
Radio spectateur, spectatrice, écoutez bien, on va prendre le temps. Elles vont les poney en science.
Donc, ne pas manquer.
Mis à part le conseil exécutif et le conseil d'administration, est-ce qu'il y a d'autres façons de s'impliquer à la faculté des sciences ou avec la GES?
Dans le fond, je ne sais pas si ça marche comme ça pour toutes les autres facs, mais nous, en sciences, chaque cohorte de chaque programme élit là, un président, un vice-président puis un trésorier. Donc, c'est sûr qu'on peut s'impliquer à ce niveau-là. Là, on va être très impliqué pour faire les 5 à 8 puis les thèmes comme ça. Sinon, à chaque événement là, qu'on a, on cherche des bénévoles tout le temps. Puis, donc, c'est vraiment facile de trouver un événement qui te ressemble plus ou un projet là, qui t'interpelle un peu plus. Puis, tu peux t'impliquer là-dedans là, de différentes façons.
Puis toi, pourquoi tu as commencé à t'impliquer avec la GES?
J'avais du temps. Non, c'est pas vrai.
Une première.
Ça faisait longtemps que j'y pensais, justement. Même avant, quand j'étais dans mon autre bac, là, je regardais ça, mes amis qui s'impliquaient. Je disais, hey, ça a l'air pas pire, cette affaire-là. J'aimerais ça faire de quoi là-dedans. Puis à la GES, là, j'ai vraiment senti que, justement, j'étais entourée du monde qui m'en semblait. Puis il y avait des projets là, que je trouvais intéressants. Puis je me suis dit, hey, je vais laisser ma couleur aussi. Je vais essayer d'améliorer ça. Puis j'ai vu ça comme une super belle opportunité. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le pas, puis aucun regret.
Est-ce que tu peux nous parler de ces projets-là que tu trouvais intéressants au moment de poser ta candidature?
Bien, justement, il y avait la semaine de la joie, que j'avais trouvé ça super cool comme concept, parce que, justement, j'avais pas ça dans mon autre uni, puis je me disais, hey, c'est le fun, c'est vrai qu'on est tous stressés, c'est nerf. Donc, je trouvais que c'était une belle initiative, puis je me suis dit, je veux faire partie de ça, moi aussi.
Puis t'étais-tu déjà impliqué quand t'étais à l'UQAM? Tantôt, tu disais que t'étais en communication dans une autre université. Là, on va pas la nommer, là. Mais est-ce que c'est ta première expérience d'implication à l'Université de Sherbrooke?
Oui, c'est effectivement ma première implication là, dans tout mon parcours universitaire. Là. À l'UQAM, c'est ça. Il y avait... Toutes mes amies étaient impliquées, mais pas moi. Puis là, c'était pas le vibe. C'était pas encore le vibe. Okay. Puis là, finalement, à l'âge, j'ai fait hey, « c'est mon monde, ça ».
C'est quoi ton truc pour concilier finalement l'implication et les études? T'as-tu un truc en particulier ou?
Il faut de la discipline.
Oui, en effet.
Il faut de la discipline.
Oui.
Il faut des journées de 25 heures des fois, mais écoute, on comprime ça puis on trouve le temps. Là, quand la passion est là, je pense que on s'arrange puis on priorise certaines affaires.
Oui, exactement. Puis je trouve que ce qui est le fun avec s'impliquer, c'est que tu peux genre procrastiner ton étude, mais de façon où est-ce que tu te sens pas trop mal parce que là, tu vas travailler sur un dossier à la GES ou à la FIRST pour nous, mais en même temps, t'es comme « Oh, il faudrait que j'étudie, mais c'est aussi important ce que je veux faire sur le side. »
Ça diversifie ton occupation.
Ça diversifie notre anxiété, c'est ça que je comprends finalement. Là. Wow! Et là, je pense qu'on serait le temps pour la question de Marjolaine.
La question?
Oh oui.
Donc là, Viviane, c'est rendu le temps de la question.
Jingle.
Ouf!
C'est quoi ton top 3 des personnes impliquées à l'université?
Ben là, c'est sûr que faut que je parle de ma paroisse. Là. Mm-hmm. Donc, il y a Justin, notre coordo, Justin Laroche, notre petit roux là, national là, qu'on aime, on adore. C'est le coordo de la GES qui est impliqué depuis quand même longtemps. C'est un coordo extraordinaire. Là. Il est là pour son équipe, il est là pour vivre. Il est vraiment comme la colle là, qui lie tous les membres puis tout le comité. Puis il est impliqué justement dans différentes instances. Donc, Justin, c'est sûr. Ensuite, on a notre délégué politique, Léo Boivin, qui, je crois, commence à être connu peut-être grâce au congrès des membres de la FUS. Donc, Léo, c'est quelqu'un là, qui défend avec conviction et professionnalisme, là, comme j'ai rarement vu là, pour un étudiant. Là. Il défend les positions de la GES puis de ses membres, là, comme c'est ça.
D'une façon très articulée aussi, là, comme tu dis,
ouais.
C'est ça. Là,
très impressionnant, voir Léo à l'œuvre, là, c'est inspirant, je trouve, puis c'est comme un exemple là, d'implication qui... rayonne, là. Mm-hmm. Puis sinon, notre ancien président de la FIRST, mais qui vient aussi des sciences.
C'est comment? 1, 2, 3, go! Guillaume Bernard, qu'on va recevoir d'ailleurs à l'émission à la fin, notre dernier
Laurent,
émission.
Qu'est-ce que tu dis là?
Non, on le reçoit pas, on le reçoit pas. Potin. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Il est tard, il est 19h33.
Mais pourquoi Guillaume?
Ben, Guillaume vient des sciences aussi, là, c'est sûr que ça aide. Mais en fait, je pense que c'est ça, Guillaume, depuis le début de son implication. Là. Écoute, moi, on ne sait même pas, notre parcours universitaire ne s'est pas croisé, mais pourtant, j'en ai entendu parler, puis j'ai su différentes affaires là, qu'il avait faites. Fait que c'est vraiment un modèle là, de jusqu'où tu peux te rendre, puis justement, jusqu'où la passion peut te mener là, dans ton implication.
On va vraiment lui dire d'aller écouter l'émission de ce soir en rediffusion pour qu'il puisse entendre ça. Je pense que ça va vraiment lui faire chaud au cœur. Donc, merci beaucoup, Viviane, de ton temps. On se prépare à aller en musique avec les trois accords et leur chanson de. Une chanson de leur nouvel album, Vol à l'étalage. Au retour, on jase avec Alexandre Bélanger du club de jeux de rôle et de société de Sherbrooke. C'était pas évident à dire. Restez avec nous, vous êtes aux Influenceurs sur CFAC 88.3.
Gérant fera l'inventaire demain. Sa marchandise. Mis à part quelques détails, le plan était presque sans faille. C'est un vol aller étalage, c'est un vol aller étalage. Impossible que ça déraille, c'était du superbe travail. C'est un vol aller étalage, c'est un vol aller étalage. Pendant que l'un créerait la diversion, en posant des questions à la caissière, les autres rempliraient leur pantalon d'articles de sport et de produits divers. Quand le gérant demain, sa marchandise sera déjà loin. Mis à part quelques détails, le plan était presque sans faille. C'est un vol aller étalage, c'est un vol aller étalage. Impossible que ça déraille, c'était du superbe travail. C'est un vol aller étalage, c'est un vol aller étalage.
Vous êtes aux Influenceuses sur les ondes de CFAQ 88.3. Il est présentement 19h37 et on est avec vous jusqu'à 20h. Nous sommes toujours avec Marjolaine Pion, vice-présidente aux affaires internes de la FEUS, qui, soit dit en passant, la dernière fois qu'on va pouvoir t'appeler vice-présidente aux affaires internes, parce que comme ça, les mots, ils changent, on le dit ce matin. On a aussi Viviane de la Juste avec nous et Alexandre du CJRSS. Et je l'ai bien eu. Bonjour.
Ça... Est-ce que maintenant, tu peux nous dire qu'est-ce que ça veut dire, le CJRSS?
Oui, je l'ai juste ici. Donc, c'est le Club de jeux de rôle et société de Sherbrooke.
Félicitations, Laurent. Une main d'applaudissement. Ça
ouais,
vaut la
bravo.
Peine.
Yes. Je l'ai pratiqué, mesdames et messieurs, tout le long de la pub.
Donc, Alexandre, bonsoir. Ça va bien?
Ça va très bien, vous?
Ça va super bien, merci. Donc, le club de jeux, est-ce que tu peux nous en parler un peu, tu sais, de où est-ce que ça vient, comment ça a été créé à l'université?
Bon, on est un organisme étudiant. On n'est pas une association étudiante. Donc, on est complètement autofinancé. On ne doit des comptes qu'au SVE, qui nous passe deux locaux merveilleux, une ludothèque puis un local de rencontre. Le club a été fondé en 1996.
Oh, wow!
Oui, ben du moins, on parlait de mémoire institutionnelle hors d'onde. Là. C'est aussi loin qu'on peut retrouver nos procès-verbaux. On présume que quand il a été fondé, il y a eu des dons qui ont été faits par différents membres. Dans ce temps-là, c'était le club de jeux de rôle et stratégie. Donc, il y avait beaucoup de jeux de Warhammer, des trucs comme ça qui ont été donnés au club, ce qui a fondé comme notre base de ludothèque. Puis, on se finance, puis essentiellement, on utilise 95% là, des fonds qu'on ramasse pour garnir notre ludothèque là, à chaque trimestre. Là.
C'est quoi la différence que tu dirais entre finalement le club de jeux de société et le jeu de rôle? C'est quoi les deux apports?
Bon, le jeu de rôle, généralement, tu as un maître de jeu qui, comme le maître de cérémonie, si on peut s'entendre, le DJ, c'est lui qui va qui va éduquer les règlements, qui va mettre les gens en. Puis qui va raconter son histoire, les joueurs vont contribuer à son histoire.
Okay.
Un jeu de société, c'est. Ben, dans le fond, essentiellement, on pense à Monopoly. C'est plate, Monopoly, mais c'est un des gros jeux, Monopoly Scrabble. Ben, il y a tout un sous-genre qui s'appelle les Eurogames. On en a un paquet au club. Il y a un autre sous-genre qui s'appelle les Wargames. On en a aussi un gros paquet au club. Ça nécessite pas un maître de jeu. C'est ça la différence.
OK. Ça serait quoi ton jeu préféré dans chaque catégorie?
Bon, Si on parle de jeux de rôle, moi personnellement, je joue à un jeu qui s'appelle Shadowrun, mm-hmm. qui est essentiellement du technopunk avec un mix de médiéval fantastique dedans.
Okay.
Puis au niveau des jeux de société, ça va être difficile d'en prendre juste un. Mais présentement, le trésor dans ma collection, c'est Frosthaven, qui est un jeu, ce qu'on appelle de type Legacy. Donc, on fait des campagnes qui progressent, ça déborde des choses dans le jeu, ça change le jeu, ça change la structure du jeu à mesure qu'on avance.
Et depuis quand tu fais des jeux de rôle?
Jeux de rôle, j'ai commencé, j'avais 12 ans.
Okay. Oh.
Donc, 1986.
donc, ça fait pas si longtemps que ça, finalement.
Ouais, ça dure. On peut dire. Jeux de société, j'ai eu la piqûre un petit peu plus tard.
Okay.
Je vous dirais début des années 2000, quand les Eurogames sont arrivés. Là. Mm-hmm. Mais quand j'étais kid, je jouais à Jour de paye, puis ces affaires de Parker Brothers, là, mais c'était pas comme le highlight de ma semaine, comme là, maintenant c'est rendu là, quand je fais ça.
Okay.
Très intéressant. Depuis combien de temps est-ce que tu t'impliques avec le club?
J'ai commencé en 1998.
OK. Fait que là, toi, la mémoire institutionnelle de ce...
Excuse-moi, j'ai 2018. Oh là là!
Oh, okay.
Ouf. Un pilier finalement de...
Oui,
oh non,
c'est ça,
non, c'est pas un pilier.
J'ai commencé mon implication étudiante en 98, mais non, ça fait moins de temps que ça, je suis dans le club étudiant.
Puis qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer avec ce club-là?
C'est suite à une perte personnelle là, où là, j'ai eu un vide dans ma vie, puis j'ai dit, ben, faut que je fasse de quoi? J'étais déjà dans l'orbite du club, puis j'ai vu qu'il y avait besoin d'aide au niveau de l'organisation de ce truc-là, fait que je leur ai dit, ben, si vous voulez de moi, je suis là. Puis ils ont dit oui.
Justement, c'est quoi ton rôle au sein de du regroupement?
Je suis directeur des opérations, qui est un nouveau poste qu'on a créé, dans le fond, parce que le club est en pleine expansion. Puis ben, moi, je suis l'ancien directeur de communication, mais il y avait trop de jobs. Fait qu'on n'a pas eu le choix de splitter le poste en deux. Et j'ai gardé la partie opération, qui est, dans le fond, s'assurer que le club fonctionne. Donc, on vend des collations contre contribution volontaire, s'assurer qu'on a toujours un inventaire, faire les liaisons avec tous les partenaires, donc l'université, les marchands de jeux de société, de jeux de rôle, tout ce qui est dans le fond organisme, les syndicats, parce qu'on organise aussi des... c'est une de nos façons de financer, on organise des soirées. Fait que c'est moi qui va comme tout coordonner cette partie-là. Là.
Est-ce que c'est souvent les soirées? Est-ce que c'est fréquent les soirées de financement finalement?
Ben, de financement, plus ou moins, ça grossit rapidement. Mm-hmm. On a cependant, tous les mercredis soirs, on a notre soirée de jeux de société qui est ouverte et gratuite à tous.
OK.
Puis si on veut aller jouer aux jeux de société, ça serait à quel endroit?
C'est au E1, généralement dans la zone.
Okay.
Ça change de semaine en semaine. Des fois, là, on ne veut pas la monopoliser. Fait que le SV ne nous laisse pas la monopoliser. Donc, si ce n'est pas au E1, c'est au premier étage. Mais vous pouvez quand même vous rendre au E1-0001. Notre ludothèque est juste en face, notre local est juste en face. Il va toujours avoir des gens le mercredi qui vont dire c'est dans tel local que ça se passe. Si c'est pas le
okay,
cas.
Et pour les gens qui veulent jouer, combien de jeux vous avez?
Bon, dans la ludothèque, on a environ 125 jeux de société, mm-hmm. une soixantaine d'expansions, puis à peu près 300 livres de jeux de rôle.
Oula. Donc ça, j'imagine, c'est une collection qui ne s'est pas construite du jour au lendemain?
C'est effectivement. On a reçu beaucoup de dons.
Ils viennent de où habituellement, ces dons?
Des membres du personnel, des anciens membres du club. Il y a beaucoup de... ou des membres au courant du club. Puis, quand il y a 2 semaines, on s'est fait donner Gloomhaven, qui est un super beau jeu, qui est un jeu de Legacy, donc on n'aurait pas eu tendance à l'acheter. Puis c'est un gros investissement. Mais il y a des membres qui sont arrivés, puis on joue plus. T'es un club. Fait qu'on était très, très contents.
Et c'est quoi les jeux favoris des gens qui viennent le mercredi, justement? C'est quoi les gros noms des jeux?
Les gros noms. Bon, il y a Seven Wonders, qui est mm-hmm. difficile à passer à côté. Clank. On va jouer beaucoup à Love Letter. On va jouer à Shadowhunter. On va jouer à... écoute, il y en a tellement. C'est comme... Brass, on a Dune Imperium, Terraforming Mars, tu le nommes, regarde sur...
On en a quand même 125 à nommer si on voulait faire le tour.
Effectivement.
Et admettons quelqu'un vient d'entendre un jeu qu'il aime, est-ce que c'est possible pour lui ou elle de venir l'emprunter?
Ouais, si tu es membre, puis le jeu n'est pas trop récent, dans le fond, quand on achète les jeux, on a un moratoire d'environ un mois pour dire, ben là, on vient juste de les acheter, fait qu'on va en profiter pour le public, mais si t'es membre, tu peux venir emprunter un jeu et ses expansions pour 7 jours.
Et comment ça marche pour devenir membre?
c'est 5$, tu te présentes au club. Tu dis, bon. Hey, je veux devenir membre. Si tu vis en Estrie, il n'y a pas de problème.
Est-ce que c'est seulement pour la session ou pour l'année? Là,
c'est pour l'année.
Pour l'année au complet. Et quand même, ça vaut la peine.
On a un deal. On n'a pas augmenté la cotisation depuis la fondation.
Wow. C'est une fois un 5$ finalement. Là,
c'est une fois par année.
Inscription.
Okay. Ouais, une fois par année. Puis voilà, tu es membre du club. S'il te plaît, viens aux assemblées générales. On a juste deux.
Puis les membres en fait, de votre organisme, là, ils viennent de quelle faculté à peu près, savez-vous?
Ça fait vraiment un petit peu sous-représenté à la faculté de médecine.
OK.
Parce que ben, ils sont physiquement pas là. Mais je vous dirais, génie, sciences, beaucoup en environnement. Mm-hmm. J'en ai en sciences humaines, j'en ai en éducation. Présentement, si je regarde juste mon exécutif, j'ai un génie, deux environnements, deux éducations qui sont avec moi, là.
Donc, vous êtes combien de membres à peu près en ce moment?
Dans l'exécutif, on est 6. Les postes sont complets. On a 3 bénévoles en plus qui viennent d'autres soirs que les gens de l'exécutif ne sont pas disponibles. Le local est ouvert tous les jours de la semaine, puis même des fois la fin de semaine.
Puis tu viens de parler des postes. Tantôt, tu as parlé de ton poste. Mm-hmm. Et là, c'est quoi les 5 autres postes?
Bon, on a le président du club. On a une secrétaire qui s'occupe paperasse, suivi, inventaire. On a un directeur des activités qui est essentiellement le représentant des membres. Mm-hmm. Donc, lui sonde le pouls, s'assure que... Puis c'est lui qui organise les parties, ces trucs-là, ce qu'on fait. Puis on a un directeur de communication là, qui gère tout l'aspect médias sociaux, annonce, s'assurer là, que les gens sont au courant qu'on a notre soirée de jeu de société là, les mercredis. Puis, ou nos parties.
Moi, je me demande, est-ce que ça vous arrive parfois de faire des collaborations avec soit des associations, des cohortes? Comment ça fonctionne pour ces gens-là?
Bon, on a deux formules. La première, c'est ben tu viens, tu réserves le E1, mm-hmm. tu, E1003, tu viens avec ta gang, tu nous dis combien tu as besoin de bénévoles, la ludothèque est ouverte, on t'anime une soirée.
Puis par exemple, ben là tu viens de dire d'animer la soirée, là, mais si par exemple moi je me présente avec un groupe, je veux faire un jeu de rôle, est-ce qu'il y a moyen qu'un de vos membres fasse finalement le maître de jeu de cérémonie le temps d'une soirée?
Bon, ça c'est délicat.
OK.
Parce que, ben, être maître de jeu, c'est, premièrement, c'est un gros investissement personnel. Mm-hmm. Donc on a eu la demande, on est en train d'étudier, est-ce qu'on va faire des maîtres de jeu alloués? Si vous me permettez l'expression. C'est un cas aussi d'avoir assez de maîtres de jeu pour faire ça, parce que c'est pas tout le monde qui veut être le maître de jeu.
OK.
L'autre formule qu'on a, si vous me permettez, c'est vous venez chercher des jeux, vous êtes un asso, vous ne faites pas un, vous n'avez pas besoin d'animation, vous nous contactez, vous nous dites j'ai besoin de X nombre de jeux. Moi, dans le fond, je charge 5$ par tranche de 16 jeux.
OK.
Vous me laissez un dépôt, cependant, parce que des fois, les parties, ça peut dégénérer. Spécialement post-pandémie. donc, c'est ça. Fait que, puis si tu ramènes les jeux, puis ils sont pas trop dégueulasses, je te redonne ton dépôt, il n'y a pas de problème.
Vraiment génial. Hey, je terminerai en savoir. C'est à mon tour de me mélanger sur mes mots. J'aimerais ça savoir un fun fact sur toi avant qu'on parte en pause.
Bon, moi, je suis un petit peu un OCD de ranger les jeux comme il faut.
OK.
Donc, quand le jeu arrive et la boîte ferme pas, capote un peu, faut que je la rouvre, faut que je place les affaires dedans. Puis à la maison, j'ai une imprimante 3D, puis je me fais des systèmes de rangement là, pour...
Très cool!
C'est quoi l'anecdote du jeu le plus mal rangé que t'as vu?
Oh my God! C'est un jeu qui s'appelle Battlestar Galactica. C'est un jeu coop avec mécanique de traite. Il est extraordinaire, puis il vaut une fortune. On ne l'avait pas ouvert depuis qu'on avait fait le déménagement. Et je me suis, quand je l'ai ouvert, j'ai presque perdu connaissance et j'ai fait la plus longue partie de 52 ramasses. C'était à peu près 775 ramasses.
Oh mon Dieu!
La patience de cette personne est fabuleuse. Oh oui, il faut être dédié.
Ben,
parce
ou
que...
faut avoir un toc, là.
Ah, ben oui, ça.
Mais en même temps, ben, tu sais, je suis le plus vieux, ça fait longtemps que je suis dans le club, mais... Je vois comme mon rôle comme étant le protecteur des assets du club, là, des médias du club. Donc, Saint-Pierre, c'est une superbe connexion qu'on a. Fait que j'en prends vraiment soin. J'ai pas d'enfant, fait que le club, c'est un peu mon bébé.
Sur ces beaux mots, merci beaucoup, Alexandre. On s'en va en pause publicitaire et au retour, on joue au jeu que Laurent a apporté. Restez là, vous êtes toujours avec les influenceurs sur CFAQ 88.3.
C'est encore les Influenceuses, il est 19h51 et on est avec vous jusqu'à 20h.
On est déjà rendu à la dernière partie de l'émission, le temps passe vite.
Oui, et pour clore l'émission, j'ai pensé à vous, on pourrait faire un jeu, en fait que je pourrais dire un de mes jeux préférés du moment, étant donné qu'on reçoit Alexandre Bélanger du club de jeu. Donc, un très concept. Pour vous ce soir, le jeu, comment il s'appelle? Tu te mets combien? Un jeu que j'ai découvert au Randolph à Montréal d'ailleurs, bar ludique. Pub non payée, mais bon, en tout cas, bref.
On pourrait en profiter pour faire une pub pour le bar ludique ici à Sherbrooke.
Oui, assurément, ouais, le Montaigu. Mais... en plus, sur la Wellington, excellent endroit.
Merci.
Le jeu, le concept est fort simple. Je vous nomme une catégorie et vous devez me dire, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant la question la plus facile et 10 la plus difficile, quel numéro correspond, selon vous, à votre connaissance sur le sujet. Votre nombre de points par question équivaut au numéro de difficulté que vous avez choisi. Tout le monde comprend?
Oui.
J'invite les gens qui nous écoutent à jouer en même temps. Et Marjolaine ne connaît pas les règles, en fait, pas les règles, mais les questions au préalable. Donc, elle va jouer avec nous. Vous avez 4 catégories. On a scolaire en vert, plaisir en orange, mature en bleu et improbable en mauve. Donc, on va commencer avec Héloïse. Héloïse, quelle couleur non, souhaites?
Vraiment, c'est Viviane. Hein?
Héloïse, c'est ma sœur, en fait.
J'ai vraiment eu un blanc. Oh, c'est vraiment marqué Viviane. Viviane, mon oui, erreur. Oui. Quelle couleur on commence?
On va y aller avec improbable. C'est mauve.
Mauve. La catégorie est photographie célèbre. Ouf. De 1 à 10. Combien tu te mets?
J'aimerais ça overshoot puis dire un beau 8, mais on va y aller avec un petit 4, mettons.
4. De quelle nationalité est la jeune fille aux yeux verts dont le portrait a été pris par Steve McCurry en 1984? Si je ne me trompe pas, là, c'était sur le National Geographic. Ouais. De quelle nationalité est la dite personne?
Tes yeux verts. J'aimerais ça dire... en Irlande, irlandaise.
Non, c'était afghane, malheureusement. Ah, donc, ben... pas de point pour Viviane pour cette partie-là.
Culture générale en science.
Alexandre, quelle couleur?
J'aime le bleu.
Le bleu? On est pour le bleu. La catégorie Sûreté du Québec. Et là, c'est pas moi qui les ai choisis, vraiment au hasard. De 1 à 10.
On va y aller avec un 7.
Un 7.
Oh, quand même.
Créé en 1981 par la SQ, quelle est la mission première de son groupe tactique d'intervention?
Dans le fond, les armes spéciales et tactiques, donc ça doit être géré avec les prises d'otages, secourir, puis les interventions tactiques. Là.
C'est exactement la prise d'otages. 7 points pour Alexandre.
Wow, bravo! Wow. Ah, ben.
Marjolaine, quelle couleur?
Moi, j'ai allé avec le vert.
Le vert, scolaire, si je ne me trompe pas. La catégorie, homme de Cro-Magnon.
Oh non!
Marjolaine, de 1 à 10.
Un 3.
Un 3. Ces énergumènes vivaient-ils il y a 3500? 35 000, 350 000 ou 3 500 000 ans?
On parle de qui?
Les hommes de Cro-Magnon.
OK. Comme à un examen, quand je ne sais pas la réponse, je vais prendre un hasard. B. Oui, ben c'est exactement ça.
Et c'était B.
Ah oh ben,
à peu près 35 000
ans. Ça aussi, on aime ça okay. Quand ça arrive en
Marjolaine,
examen.
Marjolaine, 3 points.
Woo!
Viviane, on est de retour avec toi. Quelle couleur?
Ben là, on n'a pas été dans l'orange, fait qu'on va y aller.
On y va dans l'orange. La catégorie est... Ginette Renault, oh, notre icône du Québec. De 1 à 10.
Je vais me faire haïr, mais vas-y avec un 1. J'en connais pas, Ginette.
Est-elle la fondatrice du Renault Dépôt?
Non.
C'est une mensonge pour un point. C'était facile quand même, ça. Sensiblement, celle-là, là, tu l'as bien eu. Alexandre.
Écoute, on va rester dans le bleu, ça va bien.
Dans le bleu, mais parfait. La catégorie est production et consommation mondiale. Encore une fois, je m'excuse, c'est pas moi qui ai pigé.
Écoute, on va y aller hardcore, un autre 7.
Un 7. Quelle nation est la plus grande productrice de tomates, melons, pommes de terre et miel dans le monde?
Oh.
On cherche un pays.
Je te dirais que je pense que c'est les États-Unis.
États-Unis? Malheureusement, c'était la Chine. Donc, pas de points pour celle-là. Mais quand même, tu es quand même en tête d'affiche pour les points. Marjolaine.
Quelle couleur?
Vert, pourquoi pas? Ah, oh, c'est à mon tour.
Oui, génial. C'est à ton vert. Tour. OK, vert. Donc, pour la catégorie, je pense que ça va être bon. Ah. Bataille des plaines d'Abraham.
Et là, si je ne l'ai pas, c'est malaisant parce que mon bac, c'est l'histoire.
Donc, 1 à 10, tu mets combien?
Vraiment, là, je vais aller safe. Je vais aller 5. OK, 6. OK, 7.
Il faut comprendre que je fais des petites phases de désespoir à Laurent parce qu'il étudie en histoire, là, il devrait savoir.
Je me suis mis assez confortable à 6-7, mais bon.
Là, on a Alex à 7.
Je vais dire 7 pour essayer de d'égaliser avec Alex.
Combien de temps aura duré la charge entre les deux cas?
11 minutes. Ou 13. C'est ça?
15.
Oh!
Mais t'étais très proche.
Ma réponse, c'était 13 minutes plus 120 secondes. Je pense que je l'ai eu.
Ah!
Mais je me souvenais que c'était vraiment peu, mais dans mon cours de seigneurie que j'ai eu avec mon prof, il me semblait que j'avais retenu 13, mais c'est peut-être 15 en effet.
Il y avait ta confiance là-dedans. Ben,
vraiment beaucoup 11, de confiance. Puis... 13, ouais. Finalement, 15 et 120 secondes. On va te...
On y a cru?
On me le donne vraiment pas, la gang. Non, c'est vraiment malaisant. Je suis en histoire. Mais bon, on joue pour le jeu. Ben. Viviane.
D'accord.
Okay. Oh, attends, mais là, on
Ok, je vais y aller avec le orange.
Le orange. La catégorie est... Album québécois des années 2000. Ah, oh, ça, j'aime ça comme catégorie, par contre.
OK. Là, j'ai vraiment peur de la question. Je dirais 6.
6. Trompe-l'œil est le titre de quel groupe québécois francophone ayant attiré l'attention du Canada anglophone ou des États-Unis? J'ai lu la question, j'ai rien compris moi-même.
Ben, Trompe-l'œil, j'imagine, c'est le titre de l'album. On veut savoir c'est qui les artistes qui ont chanté ça?
Non, on veut savoir le nom de 6. De quel groupe québécois, en fait?
Oui, c'est ça. Ouais. Les artistes?
Oui.
J'ai aucune idée. Est-ce que vous avez une idée?
C'est pas les Cowboys.
Non, ce n'est pas les Cowboys. On pourrait jouer finalement tout le monde ensemble.
Oui.
C'est un groupe, là.
C'est un groupe, mais j'avoue que moi-même qui aime là, la francophonie, j'ai aucune idée. Qu'est-ce que ce groupe-là? On peut juste passer. C'est Malajube.
Ah!
Oui, c'est vraiment début des années
2000. Oui, là, on est au début, là. Mais là, je sens qu'il y avait quelqu'un.
J'aurais jamais un peu trouvé.
Ouais,
on n'était pas très...
On va faire un dernier tour.
OK, dernier tour.
Viviane, quelle couleur?
On va y aller avec vert.
Et là, on rappelle qu'Alexandre est toujours en tête avec 7 points.
14.
Non, 7.
7.
Okay. J'ai manqué 22.
Oh, tu mets combien en Seconde Guerre mondiale?
C'est pour moi qui est en histoire, donc on va y aller avec 4.
4. Dans quel archipel se trouvait la base navale de Pearl Harbor, attaquée par surprise en 1941 par les Japonais? Et là, on cherche un état des États-Unis. Et là, vraiment, là, quel archipel?
Oh. Oui.
Ben c'est...
J'ai besoin là, de plus d'engouement.
Hawaï!
Oui!
Ben oui, Hawaï! Oh! Hey.
Génial. Donc, plus 4 points. Alexandre.
On va y aller vert.
Vert. La catégorie océan indien.
Oh!
Mmh. 1 à 10.
5.
5. Quel est le point de profondeur maximale de l'océan indien à 1000 mètres près?
Ah! Je te dirais... 18 000 mètres?
18 mètres?
18 000.
Ah, 18 000. Non, c'était 7 258 mètres. On acceptait entre 6 258 et 8 258. Donc, pas de points là-dessus, mais quand même, 7 points. Marjolaine.
Non, et là, Laurent, il va falloir conclure l'émission parce qu'il nous reste 50 secondes top chrono. Donc,
mais je pense qu'on a une égalité parce que tantôt, tu as dit 4 et là, tu as dit 3.
Non, je pense que j'étais à 6.
À 6, mais je pense qu'Alexandre gagne avec 7 points. Avec la balle d'eau, on saura dire. Mais bravo, Alexandre, tu es le grand gagnant de notre jeu.
Le maître de jeu de société.
Oui, le maître de jeu de société est avec nous, parmi nous.
Donc, merci beaucoup, Viviane. Merci, Alexandre, de vous être joint à nous ce soir. On est vraiment contents de vous avoir reçus. Ça a été une belle soirée. Merci, Laurent, pour fabuleux jeu. C'était vraiment le fun.
Ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'on va faire ça chaque semaine, un nouveau jeu.
Bon, excellent. Ça conclut bien l'émission. Donc, on se revoit la semaine prochaine, lundi 19h, pour la prochaine émission des Influencers. Merci.
Bye bye.
La musique, la culture.